Donc, ceci est le troisième message dans l'Épître aux Romains, d'accord? Et donc, c'est chapitre 1, versets 1 à 7. Romains chapitre 1, les versets 1 à 7. Donc, pour vous dire, donc, j'ai dans les vocabulaires de Facebook, j'ai promu cette série comme publicité à Périgueux, à Brive et à Abbeville. Donc, il y a 30 000 personnes qui ont allé voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je continue. Il ne faut pas que je laisse tomber. Mais voilà, je vais faire demain ou quelque chose, le même message, mais le mettre correctement sur Facebook. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le premier paragraphe. Et là, les sujets qu'on va toucher sont la Trinité, la parole de Dieu, l'Évangile et les appels de Dieu. Les appels ou les invitations de Dieu. Donc, ce sont le salut, le service et la sainteté. Donc, ce sont les grands sujets qu'on va toucher. On va enfin toucher plein d'autres choses dans le message. Donc, ça va être peut-être un petit peu comme aller à l'école. Hein? Donc, vous allez subir l'école à l'église. Mais il faut bien comprendre ce qu'il y a dans le texte pour pouvoir bien comprendre le texte pour le mettre en pratique. OK? Donc, c'est ça qu'on voudrait faire. Donc, on va lire déjà chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur, donc serviteur c'est doulas, c'est le mot pour esclave, serviteur de Jésus-Christ, appelé, et on va revoir ce mot plus tard, appelé à être apôtre, mis à part, et on va revoir ce mot aussi, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors le mot annoncer n'est pas dans le grec. Donc le mot annoncer est ajouté pour aider le français. Mais on n'est pas obligé d'avoir ce mot. Donc la plupart des traductions rajoutent le mot annoncer. D'autres n'ont pas le mot annoncer. Il est apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu. Ou pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui, donc l'évangile, qui avait été promis auparavant. Alors on va regarder ce mot. Auparavant. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui, donc l'évangile, qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, bien sûr, et déclaré, donc on va revoir ce mot aussi, déclaré, donc selon la chair, il est né selon la postérité de David, et il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par qui, donc là c'est Jésus, par qui, Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance, et on va voir ce mot obéissance dans le message, pour amener en son nom à l'obéissance obéissance de la foi, tous les païens, on va voir ce mot aussi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints ou saints par vocation, saints par appel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je veux commencer en vous donnant quelques définitions de ces mots. Donc, j'ai déjà mentionné lesquels. Au verset 1, il y a le mot serviteur, c'est le mot doulos. C'est un mot qui veut dire tout simplement esclave. Okay? C'est une personne subjuguée. Paul dit il est subjugué à Jésus-Christ. Paul, en tant que personne qui est devenu apôtre, il s'est soumis à Jésus-Christ. Donc voilà, déjà. Et vous, êtes-vous subjugué à Jésus-Christ? C'est déjà la première question du message. Après, on a aussi ce mot appelé. Appelé, c'est un mot qui, je ne vais pas vous donner tous les mots grecs, c'est dans le texte, mais je ne vais pas vous expliquer tous les mots. C'est un mot qui signifie appeler, bien sûr, inviter ou même convoquer. Ce mot se trouve dans notre petit paragraphe plusieurs fois. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il y a une parabole qui concerne, en fait, ça concerne Israël et comment Israël a rejeté Dieu, Jésus, etc. OK? Mais dans ce parabole, on va l'utiliser comme illustration de ce mot « appeler ». OK? Il y a un roi et le roi a invité beaucoup de monde aux noces de son fils. Mais personne n'est venu et ils ont maltraité les messagers. Après, le roi a été fâché et il a envoyé tuer tous les premiers invités et il a invité d'autres personnes. Donc, le message ou le leçon, c'est que l'invitation du roi est sincère, mais sérieuse et à ne pas ignorer. OK, donc, dans l'illustration, Dieu, c'est le roi. Et il nous invite à l'évangile ou par l'évangile, et à ne pas ignorer. Dans le verset 2, il y a ce mot promis d'avance, qui signifie annoncer auparavant ou annoncer depuis longtemps. Donc le point, c'est que Dieu a promis le salut depuis toujours. Même dans le chapitre 3 de la Genèse, on le voit bien, la guerre entre les descendants du diable et les descendants de la femme, okay, d'Ève. Okay? Depuis toujours, Dieu a promis le salut. Au verset 4, il y a ce mot « établi » dans certaines traductions ou « déclaré » dans d'autres traductions. Donc, ce mot « établi »,« déclaré » signifie « délimité par les bornes ». Délimité, donc, disons, sur cet ordinateur-là, vous mettez 1, 2, 3, 4 bornes. OK? Et donc, on va dire que un objet qui a ses bornes et ses formes, etc., est un ordinateur. OK? Donc, on va savoir que c'est un ordinateur parce que ça correspond à ce qui délimite l'idée d'un ordinateur. Plus tard, on va voir un autre mot concernant Paul. Et Paul, c'est le même mot, mais c'est une forme différente de ce mot. Et il y a les bornes aussi, mais qui sont autour, il y a une clôture et il y a un terrain à l'intérieur. Donc, c'est le même mot, mais un peu différent, avec une préfixe différente. Donc, c'est pour ici, en parlant de Jésus, il est défini Dieu, tandis que plus tard, le travail de Paul sera délimité à l'intérieur de ce clôture. OK? Donc, ce mot donne à la fin ce mot qui parle de Jésus qui a été déclaré par la résurrection de mort, Fils de Dieu. Ce mot donne le sens de reconnaître une vérité ou de reconnaître une réalité. Et je vous donne cet exemple. Donc, Louis XVI, il se promenait pour s'échapper, n'est-ce pas, dans une carrosse. Et je ne sais plus exactement comment ça se fait, mais il a payé avec des pièces de monnaie. OK? Et quand il a donné la pièce de monnaie, eh bien, quelque chose qui le ressemblait était sur la pièce. Et les gens ont dit, ah, c'est le roi. Ils ne reconnaissaient pas le roi, mais ils reconnaissaient par la pièce de monnaie le roi. OK? Et quand on voit la résurrection de Jésus-Christ, on doit reconnaître qu'il est Dieu. C'est comme ce sens-là que ce mot est donné. Donc, seul Dieu pour ressusciter les morts. Okay? Quand Jésus était là, il a ressuscité plusieurs personnes. Donc, on pose la question, qui alors a ressuscité Jésus? Sinon, lui-même. C'est pour ça que, voilà, la résurrection du Seigneur Jésus définit, nous montre que Jésus est Dieu. Dans le verset 5, il y a un mot qu'on peut très facilement mécomprendre, c'est le mot obéir. Voilà, tout simple, le mot obéir. Mais ce mot, c'est un mot qui veut dire, donc c'est le mot écouter, mais c'est une forme renforcer du mot écouter. Okay? Donc, ce mot veut dire écouter attentivement et se conformer. Écouter attentivement et se conformer. Donc, on peut, hein, les parents parlent, oui, maman, j'écoute. Ça passe par là, n'est-ce pas? Écouter attentivement. Oui, maman, j'entends ce que tu dis, d'accord. Mais ne pas le faire. Ou bien, on entend, on écoute bien et on va le faire. Ça, c'est ce mot-là. Okay? On se conforme à ce qu'on a entendu. Jacques a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous arrêtez pas à l'écouter seulement. Dieu veut que la parole passe par nos oreilles ou nos yeux à l'intérieur et ça se mette en pratique. Et puis, il y a ce dernier mot, c'est le mot les païens. Les païens, c'est le mot ethnos, donc d'où vient notre mot ethnie. Okay? Donc, ethnos veut dire les races, une race ou les races, les nations, les païens, les ethnies. Et généralement, ça veut dire les non-juifs. Comme ici, ça veut dire les non-juifs. Mais, attention, parce que ce n'est pas la seule signification. Donc, dans Actes chapitre 17, versets 26, 27 et 28, on ne va pas les lire. Mais Paul dit que tous les hommes sortent du même ethnos et du même génos. Donc, il dit le génos de Dieu. Donc, les génétiques, les gènes, les mêmes gènes, on a le même ethnos, on a tous la même ethnie, on a tous les mêmes gènes, les mêmes génétiques, et l'origine de tout ça est Dieu lui-même. Et donc, dans l'argument de Paul, l'offre de salut s'étend donc à toute l'humanité. Donc, maintenant, on va expliquer un peu le texte. Et je vais, au fur et à mesure, je ne sais pas, des fois, je vais faire des explications par paragraphe et des fois, verset par verset. OK? Mais ici, c'est plus par paragraphe. Donc, on va voir chapitre 1 et les versets 1 à 4. Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il, donc l'évangile, concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous voyons dans cette petite moitié du paragraphe, nous voyons plusieurs sujets qui sont soulevés, mais premièrement, on voit la Trinité. On voit le Dieu trinitaire qui s'est révélé comme tel dans ses Écritures. Les Écritures révèlent la complexité de la divinité. Dieu n'est pas simplement elle, donc le hébreu pour Dieu, il n'est pas simplement elle, mais il est complexe, Elohim. Il n'est pas simplement Al, pour les Arabes, Al, Dieu, mais il est complexe, Allah, c'est Dieu complexe. Il n'est pas simplement Dieu, pour les Français, il est le Dieu qu'on dit la Trinité. Dieu est complexe. Le Père Céleste, le Saint-Esprit, qui est la source des Écritures inspirées, et le Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu en trois personnes unies. Donc, cette doctrine de la Trinité, cette doctrine, la doctrine entière, était révélée à l'humanité progressivement. Dieu n'a pas parlé de tout ça dans la Genèse. Pourtant, il y a quand même dans la Genèse quelques soupçons, quelques idées là. Dieu a créé les cieux et la terre. On peut dire Dieu le Père ou Dieu la Trinité, mais Dieu. Après, on voit l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et par la suite, Dieu va dire, faisons l'homme ou l'humanité à notre ressemblance. Leur ressemblance. Il n'a pas dit mon image, mais notre image, n'est-ce pas? Donc la Trinité était toujours là, mais c'était pas entièrement, même pas beaucoup défini jusqu'à l'arrivée de Jésus et encore par la suite dans l'explication de l'Évangile. Après, on voit aussi, il fait mention des Écritures, la parole de Dieu. Elle est éternelle et écrite. Déjà avant de créer notre temps, hein, parce que nous, on vit dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Dieu est éternel. Okay? Donc, avant de créer notre temps, avant la création, le Dieu trinitaire a décrété, et là, c'est un mot dans la théologie, le décret de Dieu, okay? Il a décrété qu'il allait être lui-même le libérateur. Lui-même allait venir sur notre planète pour être notre sauveur. Et cette promesse du salut, et bien aussi la mise en pratique, parce que ça a pris tous ces millénaires jusqu'à ce que Jésus soit là, et on n'est pas encore au ciel dans notre forme ressuscitée même, n'est-ce pas? Donc, toute l'application de ces choses-là est le thème principal dans les Écritures. Je ne vais pas dire à chaque fois, à chaque verset qui dit ceci, 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 concernant le salut. Mais toutes ces choses concernent au long, en large, le salut. Dieu lui-même a communiqué ce message à travers les hommes, mais pas n'importe quel homme, les hommes juifs choisis qu'il a parfaitement dirigé pour inscrire le message qui est dans les Écritures. Donc, on dit les Écritures sont inspirées et cela, nous voulons dire que les Écritures sont le produit du souffle de Dieu. Dieu a ensoufflé à travers les hommes pour que le stylo ou le plume écrit exactement ce que Dieu voulait dire. Un autre sujet qu'on voit ici, c'est l'Évangile. L'Évangile est le troisième grand sujet dans ce demi-paragraphe. Okay? Et comme j'ai dit avant, l'Évangile est annoncé depuis toujours dans les Écritures, bien qu'il ait été rarement compris avant la croix. Dans l'Ancien Testament, les gens ne comprenaient pas l'Évangile. Ils savaient que Dieu allait les sauver, mais ils n'ont pas compris. C'était toujours caché. Ils attendaient le sauveur. Mais même quand il était là, on n'a pas compris que c'était lui. Donc, c'était pas très facile de comprendre. Donc, voilà, l'Évangile, le texte nous dit, concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est, il dit, selon la chair, il dit, il est de la descendance humaine juive. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont anti-juifs. Mais être anti-juif, c'est anti-Jésus. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, je suis chrétien, je suis anti-Jésus. Ça ne marche pas, ok? Donc, Jésus, la Bible dit très clairement, il est de la descendance humaine juive. Et même de la lignée royale du roi David. Donc, il est le Christ. Il est le Messie. Il est le roi d'Israël. Alors, Pilate s'est assuré de bien marquer cette condamnation sur la croix. Jésus, roi des Juifs, c'était sa condamnation. Et encore plus, le texte nous dit, concernant le Saint-Esprit, hein, il dit que Jésus est conçu par Marie par miracle du Saint-Esprit. Il est le Fils unique de Dieu. Il est le seul engendré du Père. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour enlever nos péchés. Et il est revenu à la vie. Ça, c'est l'Évangile. Il y a plein de choses qui arrivent à ce point qu'il est là, il est mort. Et puis il est enseveli. Et il est ressuscité. Et par la suite, il y a plein de choses qui se passent. Mais l'Évangile, c'est cet événement dans l'histoire que Dieu a pris nos péchés et puis il a repris la vie pour montrer l'efficacité de son salut. Dans Philippiens chapitre 2, verset 11, on voit que le Père veut que tous reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Et là, il dit dans cette phrase-là que Jésus est Jéhovah, que Jésus est l'Éternel. Ce n'est pas que Jésus est tout l'Éternel, mais il fait partie de la Trinité. La Trinité, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu oblige que tous, un jour, toute langue confesse que Jésus est Dieu, que Jésus est l'Éternel. À la gloire de Dieu, le Père. OK, ça c'est Philippiens chapitre 2, verset 11. Maintenant, on va aborder le sujet des appels de Dieu. OK? Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot appel, ça veut dire appel, ça veut dire invitation, ça veut dire convocation. OK? Donc, ce n'est pas un mot simple, c'est plus que nous pensons. Un appel, bon, je reçois un appel. C'est au téléphone que je reçois un appel. Mais ce n'est pas obligatoirement sur le téléphone que j'ai reçu une invitation ou que j'ai reçu une convocation à l'Assemblée générale. Vous voyez? Tout ça, c'est dans ce mot en grec. OK? Donc, on va lire les versets 1, 5, 6 et 7. Romains chapitre 1, verset 1, et puis 5, 6 et 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et puis verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ou toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en parlant des appels, il y a trois appels, je vous ai déjà dit, je pense. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service, il y a l'appel à la sainteté. Okay? Donc, le premier appel, c'est l'appel au salut. Dieu invite toute personne dans toute nation à croire en son Fils. Paul a été appelé à la grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu, dit Paul dans Tite, chapitre 2, verset 11, qui est la source du salut pour tous les hommes. Sans la grâce de Dieu, il n'y a rien. Alors Paul a cru à l'évangile, l'invitation, la convocation, l'appel à l'évangile est dirigé envers toute personne. Donc je vais être clair, Dieu vous invite au salut en Jésus-Christ. Chaque personne ici, chaque personne ailleurs, chaque personne est invitée au salut, comme le roi qui a envoyé les invitations. Alors après, comment répondre à cette invitation? Je veux dire maintenant que la valeur ou l'étendue de l'évangile est infinie. Infinie, largement satisfaisante pour couvrir, dit l'apôtre Jean, les péchés du monde entier. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 2. C'est pour cela que Dieu peut honnêtement et sincèrement commander à toute personne de croire en son Fils sans pour autant les obliger de croire. Donc le roi dans la parabole, il n'est pas allé par la suite forcer tous ces gens de venir à ses noces. Il simplement les tuait. Allez les tuer. Il a invité d'autres personnes. Hein? Mais Dieu n'oblige personne de croire. Bien que, comme dans la parabole, les conséquences du rejet du salut sont mortelles. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre. Il n'y a aucun autre salut. Soit on accepte le salut que Dieu a, pourvu et offert et à laquelle il nous invite, ou bien on reste dans nos péchés. Comme nous lisons dans Actes chapitre 17, et c'est les versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, donc il y avait un temps auparavant que les païens ne savaient pas toutes ces choses que les Juifs devaient les faire connaître. Il y a plein d'histoires que les gens étaient ignorants vis-à-vis de la volonté de Dieu. Donc Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, donc ça c'est assez, assez total, tous les hommes en tous les lieux, il n'a pas exclu les femmes, attention, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Oh, on voit ce mot encore. Ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc l'offre de salut par l'évangile est vraiment une grâce de Dieu. Car, étant tous pécheurs, nous sommes tous destinés aux peines éternelles si nous négligeons ce salut offert par la grâce de Dieu. Toutes les personnes ont besoin de se repentir, sinon elles mourront dans leur péché, car il a dit dans le verset 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, ça veut dire tous les gens qui ont vécu sur la planète, qui ont ignoré son offre du salut. Or, c'est grandement dommage que certaines théologiennes disent à tort, donc je dis ce qu'ils disent, mais ils ont tort, ils disent que l'appel au salut que Dieu adresse à l'humanité n'est qu'une façade, car, selon ces théologiennes, Dieu aurait une volonté supérieure, une volonté cachée, qui empêche et même interdit les non-croyants à croire. Cette erreur se base sur la fausse idée que la valeur de l'Évangile serait limitée seulement au nombre exact des personnes qui vont croire et ne permettent pas à Dieu de sauver une personne de plus. Impossible. De tels propos font de Dieu un menteur et un malveillant. Mais nous savons que le véritable menteur malveillant, c'est le diable et non pas Dieu. Maintenant, il y a aussi l'invitation, il y a deux autres invitations. Maintenant, il y a donc celui pour le service. Dieu nous sauve pour que nous lui soyons utiles dans son royaume. Pour être utile, il faut obligatoirement être disponible. Donc là, c'est une autre question. Êtes-vous disponible à Dieu? Si vous êtes indisponible, non Dieu, je ne peux pas t'aider et je ne veux rien faire, eh bien, ça s'arrête là. Parce que Dieu ne force. Des fois, il pousse très fort. Mais il ne oblige personne. Paul dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, et moi je trouve que Paul est un très bon exemple de ce qu'il enseigne, d'accord? Mais il dit comment être disponible. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ça, c'est le seul genre de culte qui est dans le Nouveau Testament. Okay, ce genre de culte, c'est le culte personnel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a plein de choses que vous entendez, que vous apprenez, que vous voyez, que vous observez à la télévision et dans les médias. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, il parle de la parole de Dieu qui entre par les oreilles ou par les yeux et vous changez vos pensées. Vous changez votre intelligence, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 et verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Et Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'idée, pour pouvoir obéir, pour pouvoir imiter, pour pouvoir être agréable à Dieu, il faut d'abord savoir ce que Dieu veut. On ne peut pas avancer si on ne sait rien. Il faut apprendre ce que Dieu veut, et il a dit ça dans sa parole. C'est pour ça que les chrétiens doivent passer du temps dans la Bible. Dieu donne à tous ses enfants des talents utiles, pas les talents inutiles. Dieu ne fait jamais rien d'inutile. Dieu donne à tous ses enfants des talents qui sont probablement à développer tout au long de votre vie. Ce n'est pas parce qu'il vous donne un talent que vous êtes capable de faire comme un professionnel tout de suite. Il faut apprendre, il faut appliquer, il faut progresser dans vos talents. Paul était appelé, invité, convoqué à servir en tant qu'apôtre aux ethnies. Dieu vous appelle en service selon les talents qu'il vous a accordés. Et il faut savoir, Paul était un homme très, très, très spécial. Avec toutes ses langues, toute sa connaissance, toute sa capacité, eh bien, il était bien choisi et on va dire bien préparé par Dieu pour remplir cette fonction-là. Et Dieu vous prépare pour remplir aussi des fonctions dans le christianisme. C'est à vous de chercher ce qui est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu pour vous. Puis, nous voyons aussi dans ce paragraphe que Dieu appelle les croyants à une vie sainte. Hein? Sainte par vocation, à une vie sainte. Et il nous appelle les saints. Saint ici n'est pas une vie de perfection, comme on pourrait penser. Dieu est saint, parfait, pas de souci. Nous, jamais. C'est jamais l'appellation pour nous. Ici, il parle de notre vie chrétienne en contraste avec l'ancienne vie païenne. Il doit y avoir une distinction, et on a parlé de ça dans l'Épître à Tite. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lampe dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc, quand il parle de ça, il, bien sûr, celui qui croit est sauvé, mais il ne veut pas qu'il demeure dans les ténèbres. Il ne veut pas qu'il reste là dans la boue. Il veut qu'il change sa pensée de vie pour être une nouvelle créature, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, Paul a dit, il le dit ici, Paul a reçu la grâce et l'apostolat. Alors, avec les choses que nous disons là, on peut comprendre ça, cette phrase à dire qu'il a reçu le salut, la grâce, et il a reçu un ministère, un service spirituel, son apostolat. Dans Matthieu chapitre 20, verset 16, nous lisons que beaucoup sont appelés, beaucoup sont invités, beaucoup sont convoqués, c'est-à-dire au salut, mais que peu sont choisis, peu sont élus pour un service spirituel, pour un service spécial. Pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de monde sauvé, mais pas beaucoup de monde au service de Dieu? Parce que peu de croyants se rendent qualifiés pour servir Dieu. Hein, il y avait cette phrase, agréable à Dieu. Voulez-vous être agréable à Dieu ou voulez-vous simplement aller au ciel? C'est ça la question. Cela revient à ce mot qu'on a vu aussi, écouter attentivement et se conformer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent bien croire en Jésus-Christ pour avoir une solide assurance vie. J'ai la vie éternelle, je vais au ciel. Mais peu de monde veut conformer leur vie aux exigences des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Celui et celle qui se rendent disponibles
comme Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, est propre au service spirituel.
Donc, je répète, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, nous pouvons offrir notre vie à Dieu pour qu'il rende notre vie utile à son service. Et bien sûr, chaque personne qui entend le message que je donne aujourd'hui a l'opportunité et le droit de croire en Jésus-Christ. Et si vous êtes croyante en Jésus-Christ, vous avez aussi l'opportunité de servir Dieu selon sa volonté en ce qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour arriver là? Je dirais, premièrement, ou commencez par dire oui à Dieu. Oui pour le salut. Oui, Dieu, je veux être sauvé. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Et oui, Dieu, je veux te servir. Alors, pour en arriver là, il faut lire la parole de Dieu dans l'objectif que Dieu puisse transformer vos pensées et vous rendre utiles. Et puis, le dernier sujet ce matin est l'Évangile. L'Évangile est pour toutes les nations, pour toutes les ethnies, pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Et donc, je vais relire le verset 1 et le verset 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Et verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, vous rappelez que le mot païen, ça veut dire race, ethnie, ethnos, nation, non-juif, etc. Tous les non-juifs. Paul, il dit, était mis à part. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si Dieu a mis des bornes, et puis il a mis une clôture autour de ce terrain, et tout à l'intérieur de ce terrain, c'est le travail de Paul. OK? Donc, le travail de Paul était la responsabilité d'évangéliser les païens. Amener à l'obéissance de la foi des gens de toutes les nations non-juives. Donc le ministère de Paul focalisait sur les besoins non-juifs à entendre, à croire et à mettre en pratique l'Évangile. Alors cela n'a pas exclut qu'il évangélise aussi les Juifs. Mais comme vous savez bien, cela terminait souvent très mal pour Paul quand il évangélisait les Juifs. On voit dans les versets 6 et 7, on va les relire, parmi lesquels vous êtes aussi, donc ces nations, ces païens, vous à Rome, vous qui avez été appelés, donc vous avez déjà cru en Jésus, donc vous êtes déjà chrétiens, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit que les convertis à Rome, mais en focalisant, non, pas tous les gens, parce qu'il y a plein de Juifs dans l'Église à Rome, okay? Mais il focalise sur les gens non-Juifs quand il dit ceci. Donc, il dit que ces non-juifs faisaient partie de la conscription de ce territoire de son ministère. L'Évangile à toutes les nations, tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les races. Donc, ceci nous rappelle de Matthieu chapitre 28, et aussi de Marc 16, et aussi de Acte 1, où on doit amener l'Évangile au monde entier, à toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre. Par le biais de l'Évangile, tout croyant, quoi que soit son origine, le texte on vient de lire, chaque croyant, tout croyant, est bien-aimé de Dieu. Dieu lui a fait la grâce du salut, couvrant tous ses péchés par le sang de son Fils Jésus,
Et donc, le croyant, nous dit le texte, est en paix avec Dieu. Paul dit un peu plus tard dans chapitre 5, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et encore un peu plus loin, dans Romains chapitre 8, verset 1, « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Même l'épître aux Romains et tous ces autres épîtres que Paul a écrits sortent de ce ministère de Paul envers les nations. L'évangile n'est pas uniquement pour le peuple d'Israël. Paul était juif, Jésus était juif, tous les prophètes étaient juifs, mais le message est pour tous les ethnies. L'évangile est pour toutes les nations. Depuis le premier livre du Nouveau Testament, Jésus insiste que le monde entier a besoin d'entendre l'Évangile. Mais je ne vais pas vous lire les textes, mais c'est Matthieu 28, versets 18 au 20. Donc, pour une petite application, je pense qu'on devrait focaliser simplement, donc c'est plein de choses que j'ai dit, mais focaliser sur ces deux mots, appel et obéir. Appel et obéir. Le mot appel qui signifie, hein, je vais vous noter, qui signifie appel, invitation et convocation. Et le mot obéir, qui n'est pas tout simplement obéir, mais qui veut dire écouter attentivement et se conformer. C'est plein de significations, ce mot. Il y a, dans le passage qu'on a vu, trois appels, ok? Trois invitations, ok? Trois convocations. Parce que Dieu veut qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit sauvé. Il veut qu'on le sert. Et il veut qu'on soit saint. C'est-à-dire qu'on vit une vie chrétienne respectable, on va dire. On arrive à chacun de ces objectifs en obéissant, dans le sens de ce mot-là, à la parole de Dieu. En écoutant attentivement et en se conformant. Comme Jacques a dit, on écoute et on met en pratique la parole de Dieu. OK? Donc, comme j'ai déjà dit, Paul, il me semble que Paul lui-même est un bon exemple de ces pratiques. Et vous pouvez arriver aussi en disant oui à Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, il ne faut jamais dire non à papa. C'était un des grands règles. Et je dis le contraire là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire non à Dieu, mais dis oui à Dieu. Il ne faut pas dire non à Dieu, mais dis oui à Dieu. OK?